À l'occasion du festival Les Musiques proposé par le GMEM, les artistes et musiciens parlent de leur rapport à l'espace et au temps. Mercredi 20 mai, Olivia Granville présentait MySpace, une pièce associant danse, vidéo et musique. Une musique composée et interprétée par Jérôme Nottinger et Tom Mace. Olivia, bonjour.
Bonjour.
Ce MySpace est un espace de rencontre, des perceptions, une collision ou collusion entre le voir et l'entendre. Le son interagit avec la danse, ça c'est une configuration qu'on avait déjà vue dans d'autres spectacles, mais là, au-delà, le son il transforme la perception sensorielle du danseur. Autrement dit, le rôle de la musique dans ce spectacle va bien au-delà de celle d'une bande-son.
Ben oui, parce qu'en fait, quand vous dites la musique est composée par Jérôme Nettinger et Tom Mays, en fait, elle est également composée par moi, puisqu'en fait, je suis dans un dispositif de captation de mouvement que pilote Tom Mays. En fait, une sorte de... Lui se définit comme un luthier informatique, il invente des instruments, et donc je joue de son instrument. Et dans cet instrument, il y a des sons qui appartiennent à Tom, et puis aussi des sons de Jérôme Nettinger, saisie en direct de manière aléatoire et que je rejoue avec mes mouvements. Donc voilà, il y a une espèce de composition partagée où effectivement il y a une construction chorégraphique, mais en même temps la danse est en improvisation et je compose ma danse à l'oreille aussi avec ce que je fabrique sonorement. Par ailleurs, la table est sonorisée également, donc il y a aussi une dimension presque percussive avec la table. Je suis pas du tout musicienne par ailleurs, mais...
Voir l'entendre, entendre le voir, faire se rencontrer ces deux perceptions. On a souvent tendance à penser que le voir est dominant et que l'entendre un peu dominé.
C'est vrai, et c'est vrai que c'est assez difficile. En fait, c'est mon deuxième projet comme ça avec un dispositif de captation de mouvement. Et sur le premier, il y avait des gens du public qui sortaient et qui me disaient oh là, c'est fou comme tu es absolument parfaitement avec la bande son, alors même que il était clair et il était clairement dit que je composais ma musique. Mais en fait, c'est très difficile. Il y a une telle habitude de penser le danseur évoluant sur la musique. Une expression que je déteste, comme si on marchait dessus, que c'est inverser cette perception est pas toujours évident. Et en fait, c'est ça qui m'a passionné dans l'utilisation de cette technologie. C'est effectivement cette superposition de sens, puisque le danseur, contrairement au musicien, contrairement même à l'acteur quelque part, n'a aucun retour de ce qu'il produit, si ce n'est un retour de l'ordre de la proprioception, quoi, de la perception sensorielle. Alors que là, tout d'un coup, le phrasé du mouvement, qui reste un phrasé intérieur, est audible à l'extérieur. Et ça, c'était assez passionnant de travailler là-dessus.
Ce MySpace, ce n'est pas un espace virtuel, ce n'est pas un territoire électronique, c'est un espace bien réel. Trois interprètes, on vient d'en parler, qui sont bien en chair et bien en os. Trois tables aussi, conçues par le plasticien Michel Jacquelin. Tu nous décris un peu ce dispositif ?
Oui, alors c'est effectivement un dispositif puisque l'idée est venue du fait que j'avais eu un peu l'expérience de travailler avec des musiciens improvisateurs, de me retrouver dans des espaces souvent pas adaptés à la danse et surtout de voir comment ces musiciens se construisaient leur propre instrument qui modifiait aussi suivant les rencontres. Et j'avais envie de travailler sur cette idée-là, de me fabriquer un dispositif à danser, un instrument de musique pratique et en même temps de travailler sur la contrainte de l'espace, sur un espace rétréci, qui était aussi une réalité pour moi dans mon parcours de chorégraphe et de danseuse, parce que les spectacles sont difficiles à monter, on n'a pas de studio pour travailler, donc finalement on est aussi à travailler dans des espaces restreints et à faire avec cette contrainte. Donc il y avait un peu toutes ces idées-là dans l'envie de se mettre à une table, qui peut être aussi ma table de travail, la table où je prépare mes projets, et de voir qu'est-ce qui pouvait sortir de ça et de cette situation très frontale comme ça, avec un public où tout d'un coup je suis posée aussi sur le même plan que les musiciens, comme une concertiste.
Michel Jacquelin, théoricien plein d'humour d'un art tangent, est-ce que ce MySpace est un espace tangent ?
Oui, c'est un espace tangent, puisque déjà la danse est tangente à la musique. Oui, c'est une musique qui... un type de musique qui est rarement employé en danse, qui est une musique complexe à écouter. Il y a effectivement plusieurs perceptions mises en jeu, donc ouais, on pourrait dire que c'est un espace tangent, même si je pense avoir beaucoup moins d'humour que Michel Jacquelin. Mais Clémence Galliard, qui donc va me remplacer demain, puisque moi je ne peux pas danser malheureusement, je pense en aura beaucoup plus que moi.
À propos de perception, justement, l'espace a l'étendue de nos perceptions. Ce qui est vrai pour l'astrophysique l'est aussi pour l'art, peut-être. C'est-à-dire que notre compréhension de l'espace, elle est liée à nos sens. Elle relève du sensible.
Oui. Absolument, et justement dans ces dispositifs, ce qui est assez troublant, c'est comment la perception de l'air qui nous entoure est modifiée en fait par cette illusion technologique qu'on produit du son. Évidemment, on produit pas de son, mais le geste étant vraiment déclencheur ou modifiant le son, finalement on a une manière de rentrer dans l'espace qui peut être, suivant le son produit, une sensation d'épaisseur ou une sensation de volatilité de l'air. Et ça, c'est assez passionnant, parce que là encore, c'est en fait une réalité pour le danseur, mais une réalité qui reste de l'ordre de l'imaginaire habituellement, et là qui tout d'un coup prend un caractère quasiment concret. Donc c'est une expérience assez nouvelle.
MySpace, une pièce dans laquelle tu joues avec des contraintes, des outils très sophistiqués, mais des outils dont tu sais aussi te libérer parfois, en quittant la table par exemple, en retrouvant l'usage de tes jambes, en redevenant mobile. En fait, il faut pas se laisser enfermer par la technologie.
Ah bah c'est ça le plus difficile, parce que c'est vrai que comme c'est passionnant en soi, on peut à un moment donné se perdre avec la technologie, se perdre dans la recherche, et que la dimension spectaculaire de l'objet et puis la dimension aussi humaine disparaissent. Donc il y a quand même une volonté dans ce spectacle que la technologie soit effectivement uniquement un outil, un moyen et pas une fin en soi. Et je pense qu'il faut regarder ce spectacle en oubliant un peu la technologie et surtout pas en essayant de chercher à comprendre comment ça marche.
Le MySpace, le vrai MySpace, si on peut dire, le MySpace du web, en tout cas, c'est un espace qui est dit social. Alors on peut penser ce qu'on veut de cette dénomination. En tout cas, c'est un lieu où on accumule des amis que l'on ne voit jamais. Un peu comme les spectateurs, hein, après tout, sont des amis, mais on ne les voit pas trop dans le noir de la salle. Pour toi, MySpace, c'est une métaphore du monde contemporain, un monde fragmenté, atomisé, où règne l'isolement ?
Alors, moi, je suis vraiment pas du tout de la génération Internet. J'ai commencé à toucher à ça très très tardivement, et c'est vrai que c'est un monde que je trouve à la fois fascinant, plein de possibles, et qui me terrifie un petit peu. Un monde dont je me sens un peu étrangère, je dois dire. Mais c'est vrai que je trouve souvent qu'il y a quand même une dimension justement d'illusion très forte, en tout cas chez des jeunes, de ces espèces d'amis virtuels, de ces espaces de représentation qui sont tellement démultipliés qu'en fait ils n'ont plus vraiment de valeur en soi. Donc moi, appeler cette pièce comme ça, c'était évidemment une sorte de plaisanterie par rapport à ça. Moi, mon espace, il est là tout petit et j'essaye de lui donner une dimension à partir de mon propre corps et à partir de choses aussi intangibles qu'effectivement l'air, la lumière et des choses comme ça. Et ça ne concerne que les 150, 200, 300 spectateurs qui sont en face de moi, mais ça me suffit amplement.
Dans cet espace-temps, la musique est mouvement. Après le MySpace de la chorégraphe Olivia Granville, on va à la rencontre de l'évanescence, de l'impermanence du geste, avec Michel Kelemenis. Le 18 mai, le chorégraphe Michel Kelemenis proposait dans le cadre du festival Les Musiques trois pièces, Vite, Disgrâce et Wolkenlohr, articulées avec la musique composée par Christian Zanesi et Eric Abécassis. Michel Kelemenis, bonjour.
Bonjour.
Vite, premier élément de ce triptyque, met en scène l'évanescence du mouvement. Au fond, de toutes les formes d'art, la danse est peut-être la mieux à même de saisir cet impalpable, cette évanescence, cette éphémère. La danse, c'est l'art de l'éphémère.
C'est en tout cas l'art de la disparition, évidemment. Pour moi, le fait même de danser, c'est m'absenter un moment du monde. Y être totalement, mais m'en absenter. Il se trouve effectivement que l'essence, la première essence de la danse, c'est l'évanescence, c'est la disparition. Mon geste à peine tracé a déjà disparu. Et évidemment, c'est très très intéressant pour un chorégraphe ou un danseur de s'interroger sur la façon dont cette disparition s'inscrit malgré tout comme une émotion à l'intérieur des spectateurs. Voilà. Et j'ai trouvé quand même que c'était important pour moi de prendre le temps d'une pièce pour m'interroger sur comment mettre en scène la nature évanescente du mouvement dansé. C'est vraiment le sujet.
Quelques éléments de cette pièce sont, je crois, empruntés à un solo que tu as écrit en 1993, « Clin de lune ». Et c'est courant pour toi d'avoir ainsi des clins d'œil ou des citations à ton propre travail ?
En l'occurrence, la première citation dans cette pièce n'est pas uniquement sur mon travail. Les deux citations, finalement, sont en référence à Dominique Bagouet, qui était mon maître, tout le monde le sait, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 4 ans. Et il y a une première figure, la première figure immobile de la pièce, sont en fait 4 gestes successifs décomposés, sous forme d'image statique, d'un duo, enfin quelques gestes, que Dominique avait écrit pour Catherine Legrand et moi-même en 1984. C'est-à-dire que dans cette notion de l'art évanescent, de la disparition, du temps qui passe et comment reste un souvenir dans la tête en matière de gestes, ça me semblait très important de ramener à l'intérieur de cette pièce quelque chose qui est carrément d'un passé très très lointain et même marqué par la disparition du chorégraphe. Il se trouve qu'en 1993, 2013, l'année qui a suivi la mort de Dominique Bagouet, j'ai fait une pièce, Clin de lune, qui était une forme, qui était mon travail de deuil, mais qui était une forme de dialogue poétique avec lui. J'ai donc aussi inséré dans Vite, sur ce même propos de comment se souvenir, quelques gestes, c'est des choses que personne ne peut reconnaître. Hein. Il y a deux gestes de clin de lune, quatre formes de désert d'amour. Il n'y a que des gens très très pointus, on va dire, qui auront travaillé avec Dominique sans doute, qui pourraient reconnaître ça. Mais pour moi, c'était fondamental. Et ce sont, dans la pièce Vite, qui prend bien 5 i dans son titre, Vite, parce que c'est très rapide, ce sont les seules figures qui s'arrêtent totalement.
Dans ce triptyque, deux éléments au moins s'inscrivent dans un cycle, l'électro-acoucycle, c'est pas si facile que ça à prononcer, qui signe ta relation constante avec Christian Zanessi, compositeur. Peut-être quelques mots sur ce cycle.
Après, on parlera de Christian, mais si je parle du cycle strictement, c'est, il se trouve que ma danse se trouve est en résonance très très directe avec la musique de Christian Zanessi. Et ça fait très très longtemps que je me promène à travers le monde dès que je dois aller quelque part avec les musiques de Christian. Je les ai toujours avec moi. Et jusqu'à être allé en 98 à lui passer commande pour un programme qui était une forme de portrait de la ville de Marseille. Le spectacle s'appelait Le paradoxe de la femme poisson, dont il avait fait la création alors. Et puis Christian continue à m'envoyer toutes les musiques qu'il écrit. Et j'avais envie, avec une série de pièces courtes, de revenir à des choses qui me sont essentielles en tant que danseur, que chorégraphe, à retourner vers mes fondamentaux ou mes essences de la danse. Et ayant un dialogue particulièrement aigu, direct, franc avec cette musique-là, j'ai demandé à Christian de me confier quelques musiques, qui sont toutes des musiques de 15 à 20 minutes. Sur chacune, j'appuie une nouvelle idée, une nouvelle façon de me rapprocher du cœur de ce qui me fait vivre finalement, de la danse. Et comme il s'agit de musique électroacoustique, j'ai décidé que ce serait l'électroacoustique.
Deux pièces sont d'ailleurs en préparation à plus ou moins brève échéance, une pièce autour de Scheherazade et une autre autour de Matisse.
J'ai décidé donc de prolonger mon électroacoustique de deux autres pièces qui seront mon projet de création pour 2010. Donc les trois premières, il y a Vite, Disgrâce, il y avait Aléa auparavant, créé en janvier dernier. Et puis l'année prochaine, j'ai envie moi de commencer à inscrire dans la tête de chacun les deux thèmes qui vont être mes axes de route vers Marseille-Provence 2013. L'un est un fil rouge, c'est le personnage de Scheherazade. J'ai coutume de dire que Scheherazade, c'est moi, au sens où c'est moi qui vais raconter les histoires. Mais le personnage de Scheherazade, en fait, je le pense comme un fil rouge qui va me permettre de tisser. J'ai beaucoup de choses à gérer dans ce temps. Ma création, bien sûr, mais l'ouverture d'une nouvelle institution de la danse à Marseille, prévue pour 2010, un complexe de studios. Et donc, j'ai envie, moi, d'un personnage fil rouge qui me permette de relier à la fois certains aspects de création et la capacité d'invitation de la compagnie. Donc, nous rencontrons, nous faisons venir, c'est Scheherazade nous raconte ses histoires. Et donc, il y aura effectivement, pour faire entrer le thème, une première pièce qui sera un solo pour hommes ou pour femmes, qui ne seront jamais vus ensemble. Mais ce sera le même solo, qui s'appellera le premier rêve de Scheherazade. Et selon, évidemment, que l'on voit un homme danser ou une femme danser, la femme forcément sera Scheherazade dans les yeux du public.
Le rêveur et ou le rêvé.
Voilà, le rêveur ou le rêvé. Et donc, moi, ça me permet de m'approcher d'une chose qui est très, très particulière de la danse, c'est que le danseur est à la fois le sujet et l'objet de la chose qu'on observe. Il y a une espèce de confusion ou de fusion du sujet et de l'objet. C'est mon sujet. C'est très pointu, je sais, mais c'est comme ça que j'ai fait les pièces d'hier que les gens ont beaucoup aimées. Donc, bon, laissez-moi parler comme j'en ai envie.
Et puis, voilà. Laissez sur Matisse.
Et donc, la seconde pièce qui viendra un peu plus tardivement, vers l'automne, c'est Laissez sur Matisse. J'ai l'intention de faire un programme important sur le rapport de l'œuvre de Matisse à la danse pour 2013. Évidemment, ça entre dans la logique des peintres de la Méditerranée. Il y a la lumière, il y a le corps, les sinuosités, il y a le fait évidemment de la présence de Matisse en Provence pendant très longtemps. Et je trouve une forte résonance entre cette peinture aussi et ma danse, cette espèce de chemin vers l'abstraction que Matisse a fait au cours de ses longues années de peinture, sans jamais totalement abandonner la sinuosité qui reste figurative ou reste anthropomorphique. Et donc, Laisser sur Matisse sera un premier test qui va pour m'amener, moi, à développer un travail avec 5 danseurs autour de la ronde. La ronde qui est peut-être l'image la plus emblématique de la danse et qui, en l'occurrence, n'est pas l'image d'un danseur, c'est l'image d'un peintre.
Entre l'éphémère qu'on évoquait tout à l'heure et la pérennité, voire l'immortalité d'une œuvre, il y a la mémoire. Tu commençais à en parler tout à l'heure à propos de la mémoire des gestes. Comment garde-t-on en mémoire un geste, un pas? Est-ce que c'est le corps qui se souvient ou l'esprit?
Les deux. Les deux. Est-ce que quand on écrit une lettre, est-ce que c'est la main qui se souvient ce qu'elle doit faire ou est-ce que c'est l'esprit? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est là dans un rapport où chacun va pouvoir se figurer que écrivant quelque chose, en fait nous avons fondé notre corps sur une connaissance qui est à peu près aussi fine de chaque élément. Et après, la mémoire, elle s'édifie exactement de la même façon que lorsqu'on a un texte sous les yeux. C'est-à-dire qu'on a mémorisé la lettre et un assemblage de lettres fait un mot, un assemblage de mots fait une phrase. Il y a des fonctions dans les mots, des verbes, des sujets, des compléments, des adverbes, des conjonctions, etc. Et puis ensuite, il y a un paragraphe. Le paragraphe s'inscrivant dans une idée, l'idée s'inscrivant sur, etc. Et ça marche exactement de la même façon en ce qui concerne une danse. C'est-à-dire qu'on va être capable de mémoriser un geste et peut-être le corps, à un moment, devient l'instrument qui mémorise la phrase de geste. Et on lance des flots de mémoire qui peuvent être des structures et on convoque des petits éléments et qui font qu'on arrive à danser sans jamais s'interroger sur la mémoire en réalité.
Peut-être quelques mots sur la musique de Christian Zanessi, qui a une démarche qu'on qualifie parfois d'ethnologique, une ethnologie du son urbain.
Moi, c'est comme ça, effectivement, que je perçois la musique de Christian. Christian, c'est un électroacousticien, un compositeur de studio, c'est pas du tout un performeur. C'est quelqu'un qui adore bidouiller avec ses écouteurs ou avec ses sons, le petit, l'infime, et puis soudain l'énorme, enfin voilà. Il se trouve qu'il a une capacité, par la musique électroacoustique, c'est peut-être de la nature électroacoustique, en un seul son, d'ouvrir un espace. Et en ce sens, évidemment, c'est une notion qui est d'espace mental, qui est particulièrement ouverte à une expression dansée. Ensuite, Christian apporte des dynamiques de composition qui, là, viennent résonner vraiment avec le geste lui-même. C'est-à-dire, d'abord, il y a un plateau ouvert, un espace, et ensuite, il y a des éléments, des événements qui viennent se cogner ou résonner, disons, avec les autres événements qui, ceux-là, sont gestuels. Donc là, il y a un dialogue qui est absolument incroyable et spontané entre le geste et cette musique-là. Et Christian, la particularité, disons, de son travail, c'est que il travaille toutes ses musiques à partir de sons concrets. Voilà. Et donc, il prend un son concret, il le fige, il le vrille, il le tord, il en prend une petite part, il en fait une énormité. Et ces sons sont effectivement empruntés à son environnement. Donc, ça va être un enfant dans un jardin d'enfants, le bruit d'une scierie, le bruit du métro, etc. Donc, il y a une tonalité de l'urbain à l'intérieur de beaucoup de ces musiques, qui souvent, finalement, peuvent être perçues comme presque des bandes son de cinéma. Cinéma un peu tendu, un peu noir souvent. La musique n'est pas noire, mais c'est la tension qui crée cette hypothétique noirceur. J'ai pu faire des pièces absolument ouvertes et lumineuses sur les musiques de Christian. Ce n'est pas la musique qui est noire par essence, hein, c'est ce qu'on dit dessus.
Dans cette ponction de la matière sonore dans l'environnement urbain, il est au fond là aussi question de mémoire, là aussi question d'impermanence, d'impalpable. Cette mémoire, est-ce qu'elle a toujours été présente dans ton travail, ou bien est-ce qu'elle l'est peut-être de plus en plus, peut-être à mesure que les années passent?
Non, je crois que c'est une question qui a toujours été présente. Évidemment, la mémoire s'épaissit au fil du temps, parce qu'on a vécu plus de choses, vu plus de choses, fait plus de choses. Mais je pense que cette chose est inscrite en moi depuis toujours. J'aime me souvenir d'une chose que j'ai pu danser il y a très longtemps ou que j'ai vue. J'aime rappeler des petits instants passés. J'aime avoir une référence. C'est pas une référence. J'ai pas une question d'hommage à rendre. C'est pas une question de référence qui doivent être appuyées pour donner sens à. Mais c'est ramener dans la vie d'aujourd'hui des choses qui m'ont fondé ou qui ont fondé ma façon d'aimer la danse, ça m'est très important.
Ramener des choses du passé, pourtant rien dans ton travail n'est nostalgique.
Absolument, absolument. Et par exemple, sur le terme de la nostalgie, dans ma façon de danser, puisque moi j'ai beaucoup analysé, je parle vraiment, je fais une écriture, je l'exprime comme ça ma danse, c'est une écriture gestuelle. Et donc il y a à l'intérieur, comme dans toute écriture, une syntaxe. Et avec, je reprends le sujet, le verbe, le complément, la conjonction, etc. Mais qui va se dire dans la danse en termes de comment je pose mon pied, comment je vais tourner ma jambe en dehors ou en dedans, qui va générer un certain type de mouvement. Et dans ce mouvement de fait, il y a toujours une chose qui est initiale, qui est première, ce qu'on appelle chez nous le moteur du geste, qui peut être un coude, le nez, l'oreille, un bras, bon. Et puis, il y a ce qui traîne par rapport à ça, ce qui est en arrière. Et ce qui est en arrière, la dernière chose qui est en arrière, chez moi, je l'appelle le regret. Mais ce regret-là n'a absolument rien de nostalgique. Il est une façon de définir. Et donc, Oui, moi, toutes ces choses sont absolument et d'aujourd'hui et dynamiques. Convoquer le passé, c'est pas du tout le regretter. C'est dire, là sont mes forces, mais c'est mes forces actives d'aujourd'hui. C'est, je ne peux pas me couper l'herbe sous les pieds, je ne peux pas me couper les pieds pour avancer, et je dois reconnaître ça, et c'est très important.
Quand tu parles de ta danse, quelle est, on dirait que tu parles d'un parfum, une note de tête, une note de corps et une note de traîne.
Et il est beaucoup question, parfois, dans la façon des danseurs d'être en scène. Je leur demande, pour leur présence, de cultiver l'idée de malice, qui met une vie dans le regard sans que ce soit un théâtre. Et souvent, dans le rapport des uns aux autres, il sera question d'une effluve, d'un souvenir, de quelque chose qu'on a croisé, etc. Ceci amenant une certaine intériorité ou un certain retrait par rapport à une situation. Effectivement, je peux en parler comme ça.
Merci Michel Kelemenis.
Merci beaucoup.
Les musiques, Festival international des musiques d'aujourd'hui, se poursuit jusqu'au 26 mai avec Ismen, un texte de Yanis Ritsos mis en musique par Georges Apergis. C'est au Théâtre des Bernardines. Plus d'infos sur le site www.gmem.org.